Chers auditeurs et auditrices, nous continuons cette deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Nous aurons environ 5 petites études. La première, c'est le salut par la foi et non par les œuvres. Deuxièmement, les lampes. Troisièmement, l'enfant ne s'est point réveillé. Quatrièmement, la foi qui sauve. Cinquièmement, la cognée est mise. Nous commençons donc par la première petite étude, le salut par la foi et non par les œuvres. Chers amis, il est clair que la Sainte Parole de Dieu nous donne des détails sur la vie de Corneille avant sa conversion. Il était religieux, mais il y en a beaucoup qui sont religieux. Il craignait Dieu et faisait beaucoup d'aumônes et il priait continuellement. Cependant, il lui manquait le principal, c'est-à-dire le salut de son âme. Donc, il n'était pas passé par la nouvelle naissance et il n'avait pas l'assurance de la vie éternelle. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui ressemblent à Corneille. Elles sont prêtes à absolument tout faire, mais il leur manque le principal. Elles ne se sont pas données au Seigneur, corps, âme et esprit. Elles ne sont pas nées de nouveau. De ce fait, elles ne sont pas sauvées. Ce n'est pas moi qui le dis de moi-même. Nous allons voir ça au long de l'étude. Or Dieu avait vu Corneille et sa sincérité. Il était sincère. Quand un homme sincère ou une femme, quand la Bible dit homme, ça veut dire homme et femme. Quand une femme sincère cherche Dieu, le Seigneur ne tarde pas à se faire connaître à elle. Dieu avait entendu les prières de Corneille. Il avait vu ses aumônes et pour qu'il reçoive la bonne nouvelle du salut, il lui envoya un ange. L'ange dit simplement à Corneille, « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. » Pour quelle raison c'était Pierre et non pas un autre disciple ? Peut-être était-il dans le dessein de la grâce de Dieu que Pierre ouvrit la porte du salut aux païens. En effet, quand l'Évangile a été dans son apparition, a fait son apparition, il n'y avait que 3 classes de personnes auxquelles il était destiné. Donc, les Juifs tout d'abord, évidemment, qui eux possédaient les oracles de Dieu. Ensuite, les Samaritains, qui étaient des demi-Juifs et aussi des demi-païens. Et troisièmement, les païens eux-mêmes. Dieu a voulu que ce soit Pierre qui annonce le premier l'évangile aux païens. Et il a voulu aussi que ce soit ce même apôtre qui ouvrit la porte de la grâce aux Juifs. Mais maintenant, il s'agissait d'ouvrir la porte aux païens, et ce fut dans la maison de Corneille que la chose a pu se produire. À cette occasion, l'apôtre Pierre comprit que l'évangile était pour tous et toutes ces préventions ont donc dû tomber. Et avant que l'apôtre Pierre avait seulement prêché aux Juifs, tout d'abord, on sait qu'il prêchait la bonne nouvelle du salut uniquement aux Juifs. Mais voilà que le Seigneur avait dit dans Saint Marc chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, donc les païens y compris. » Ainsi, beaucoup de chrétiens peuvent ouvrir les portes du ciel aux âmes, et cela est merveilleux. La clé que Dieu a posée, qu'il a posée sur l'épaule de son Fils, selon Ésaïe, au chapitre 22, verset 22, c'est à la croix, c'est la croix, c'est là la seule clé qui ouvre cette porte. Or, l'apôtre Pierre se servit de cette clé pour ouvrir la porte du ciel à Corneille et ainsi aussi aux âmes rassemblées dans sa maison. Mais Pierre a dû subir une préparation, car jusqu'alors il n'avait jamais fréquenté les païens. C'est pour cette raison que Dieu avait préparé la vision de la nappe, selon Actes chapitre 10, versets 9 et 16. Il comprit alors que rien n'était impur devant Dieu, mais que dans toute nation, ceux qui croient peuvent entrer dans l'Église. Et l'apôtre Pierre parla ainsi dans la maison de Corneille. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Maintenant encore, aujourd'hui, Dieu accepte n'importe lequel d'entre nous si nous voulons accepter son salut offert avec un si grand amour. Ses grâces descendent indifféremment sur les blancs comme sur les noirs ou sur les jaunes, sur les riches comme sur les pauvres, sur les patrons comme sur les ouvriers. Et l'exemple de Pierre au jour de la Pentecôte est très bon à suivre. Ah oui, car il a prêché le Seigneur Jésus aux Juifs tant que nous prêcherons Jésus, nous aurons de bons résultats. Et l'apôtre Pierre prêcha donc cinq choses. Cinq choses au sujet du Seigneur Jésus. Sa vie, tout d'abord, sa mort, sa résurrection, sa venue en gloire et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Voilà donc ces cinq choses. Au sujet de la vie de Jésus, il dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Or, Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Oui, il est le même de nos jours. S'il y a quelqu'un qui est tourmenté par le diable dans son corps, ou dans son âme, ou encore dans son esprit, Jésus peut le guérir. Mais si l'on croit que la maladie est envoyée par Dieu, alors il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Si nous pensons que c'est Dieu qui nous donne ces cadeaux, entre guillemets, empoisonnés, eh bien, oubliez l'idée que ça puisse venir de Dieu. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs s'arrêtent à la vie de Jésus, mais il faut aller jusqu'à sa mort expiatoire. Cette mort expiatoire où cela a apporté sur la croix. Autrement, voyez-vous, il n'y a pas de salut possible, car c'est à la croix qu'il a payé pour chacun d'entre nous, payé le prix fort. Jésus a accepté d'être fait malédiction pour nous, pour toi comme pour moi, et cela afin que nous puissions jouir de la bénédiction de Dieu par lui. Il a porté nos péchés et nos maladies dans son corps et sur le bois de la croix. Il est mort, lui, le juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il nous faut prêcher la croix et nous servir de cette croix comme d'une clé pour ouvrir le ciel aux âmes perdues. Et puis, il faut arriver à sa résurrection. Jésus est ressuscité le troisième jour. La résurrection de Jésus est d'une importance capitale, car si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'espérance de résurrection pour nous également. Il est donc les prémices de tous ceux qui sont morts, et nous ressusciterons avec lui. L'apôtre Pierre a aussi prêché le jugement. Beaucoup de personnes savent qu'elles devront se présenter devant Dieu pour être jugées. Le Père a remis tout jugement entre les mains de son Fils. L'apôtre Paul, il a dit dans 2 Corinthiens, au chapitre, je crois que c'est au chapitre 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, voilà. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Et là, il est dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun puisse recevoir selon le bien ou selon le mal qu'il a fait étant dans son corps. Nous devrons donc rendre compte de notre ministère, de notre vie et de notre travail pour le Seigneur. Et quand Jésus reviendra sur la terre, alors aura lieu le jugement des nations. Il mettra les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Après le millénium, Christ s'assiera sur le grand trône blanc et tous les morts ressusciteront pour se présenter devant lui. On peut donc comparaître devant lui, soit comme chrétien ou soit comme incroyant. Comme chrétien, ce sera pour recevoir une récompense. Mais comme incroyant, hélas, c'est pas moi qui le dis. Vérifiez dans les Saintes Écritures, ce sera pour entendre sa propre condamnation. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son saint nom le pardon des péchés. » Au moment où l'apôtre Pierre parlait ainsi dans la maison de Corneille, voilà que le Saint-Esprit descendit aussitôt et Pierre ordonna que les croyants puissent être baptisés. Et c'est ainsi que Dieu enseigna à Pierre que les païens pouvaient entrer maintenant dans l'Église de Christ. Chers amis, qui que vous soyez, vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés au saint nom de Jésus en croyant en lui tout simplement. C'est Christ qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est toujours le même, gloire à Dieu. Il peut sauver, pardonner, effacer les péchés, il peut faire de vous une nouvelle créature. Il peut faire de vous pour vous faire entrer dans son Église et également dans son royaume. Ce ne fut pas la crainte que Corneille avait de l'Éternel, ni ses aumônes, ni ses nombreuses prières qui le sauvèrent, oh non, mais c'est parce qu'il écouta la sainte parole de Dieu, puis il la laissa pénétrer dans son cœur et esprit, et finalement parce qu'il crut. Il crut au saint nom du Seigneur Jésus. Nous le verrons donc là-haut avec ses amis et sa famille. Ne vous fiez pas à votre religion uniquement, ni à vos prières ou à vos aumônes. Attendez-vous seulement à Jésus, le Fils de Dieu, qui est le seul sauveur pour votre salut. Chers frères et sœurs, je désire maintenant vous entretenir de la question qui fut posée à deux serviteurs de Dieu et de la réponse qu'il leur a été donnée. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30, il est dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et la réponse, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Il est donc nécessaire de toujours considérer le contexte de chaque passage de la Sainte Parole de Dieu avec le texte pour mieux comprendre ce dernier. L'apôtre Paul arriva donc dans la ville de Philippe et y commença son œuvre d'évangélisation. Il rencontra une femme qui avait un esprit de python, c'est-à-dire de divination. Elle a fait une déclaration qui était l'exacte vérité, mais elle parla sur une inspiration qui n'était pas celle du Seigneur. De nos jours, on appellerait une telle femme une voyante ou un médium. S'il y a des voyantes ou des médiums dans votre ville, évitez-les, car ils ne sont pas animés par l'Esprit du Seigneur, bien qu'ils disent parfois la vérité. Or, l'apôtre Paul avait le don de discernement des esprits. Remarquons en passant qu'il ne s'adressa pas à la femme, mais bien à l'esprit qui était en elle. Comment avoir la certitude que l'apôtre Paul avait chassé le mauvais esprit? Elle ne put plus deviner, et l'argent que lui procurait cette profession ne rentra plus dans la bourse de ses maîtres. Or, pour quelle raison Dieu permit-il que l'apôtre Paul fût battu et il a été mis en prison alors qu'il avait pourtant délivré vraiment cette femme de la puissance démoniaque. Dieu avait un plan. C'était le salut du geôlier. Or, croyez-moi, chers amis, si nous étions jetés en prison pour avoir fait une bonne œuvre, ce ne sont peut-être pas des cantiques que nous chanterions, mais plutôt des plaintes qu'on entendrait. Les apôtres pensèrent que le moment de prier était arrivé et au fond de cette prison, ils commencèrent à chanter. Il y a dans la vie des heures sombres et comment, aussi bien que des heures ensoleillées. Puis le Seigneur les délivra. Gloire soit rendue au Seigneur. Or ici, il y a trois choses qui sont à retenir. Primo, le geôlier avait peur pour sa réputation. Secondo, il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Et tierso, il allait se donner la mort. Où serait-il maintenant, je vous le demande, si les apôtres ne l'avaient arrêté dans son funeste projet? Oui, ou si quelqu'un qui se suicide, sachez-le bien, croyez-vous qu'il peut espérer un jour entrer dans le royaume des cieux? Absolument pas. Selon la Sainte Bible, le suicide n'en est pas la porte du tout. Heureusement pour le geôlier, Paul et Silas étaient là. Il avait déjà remarqué que ces deux hommes étaient des hommes d'élite, des hommes supérieurs. Il voulait lui aussi posséder le même salut que le leur. Et c'est pour cette raison qu'il leur posa la question. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Croyez-moi, si vous n'êtes pas certain d'être sauvé, c'est que vous ne l'êtes pas du tout. Ceux qui sont sauvés le savent bien. Je me souviens du jour où Dieu m'a donné le salut et la vie éternelle. Que signifie donc cette réponse des apôtres ? Crois au Seigneur Jésus tout simplement. Qu'il s'agit de croire de la bonne manière, c'est-à-dire au moins de savoir ce que l'on croit. Souvent, au cours de mes visites, j'ai posé la question suivante. Êtes-vous croyant ? Oh oui ! Me répondit-on. C'est ce qu'on me répondait toujours. Oh, bien sûr, je suis croyant, que pensez-vous ? Alors j'ajoutais, êtes-vous pratiquant ? Et je poursuivais, que croyez-vous ? Eh bien, je crois en Dieu, oui, qu'il était la réponse générale, c'était « Je crois en Dieu ». Eh bien, voyez-vous, chers amis, je dois vous décevoir. Là, je réponds parfois selon Jacques, ce qui est écrit au chapitre 2, verset 19 de Jacques. Je leur dis, voyez-vous, les démons, eux croient aussi, mais ils tremblent. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Souvenez-vous de ces trois mots. Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Yéhoshua, signifie l'Éternel qui sauve. Parce qu'il est le seul et unique sauveur. Si vous croyez réellement en lui, vous devez être sûr de votre salut. Le salut est personnel, comme le péché est également personnel. Chacun porte devant Dieu, moi y compris, la responsabilité de ses propres péchés. Il faut que l'œuvre de la croix soit appliquée à chacun en particulier. Dans Jérémie, au chapitre 31, verset 34, le Seigneur a dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Les hommes disent « Je te pardonne, mais sache que je n'oublierai jamais ». Ça, c'est pas un pardon, je regrette. Le Seigneur, lui, il fait autre chose que simplement pardonner. Il oublie totalement. Totalement. Chers amis, il faut accepter Jésus comme sauveur. C'est la signification de son nom. Mais il faut aussi l'accepter comme Christ, c'est-à-dire comme étant le Messie. Être loin du Seigneur. Dieu a loin Jésus pour être roi, et Jésus-Christ viendra pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Il mettra de l'ordre là où il n'y en a pas. Il sera loin de Dieu pour répondre à notre prière. Que ton règne vienne, et aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez-vous, beaucoup de gens ignorent la portée de leurs paroles lorsqu'ils récitent cette prière. Oui, croyez au Seigneur Jésus, c'est-à-dire recevez-le comme votre maître. Quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur, on l'accepte aussi comme étant notre maître. Quelle est la signification de tout cela? Jésus a dit aux pharisiens, « Vous m'appelez maître et seigneur, et je le suis, mais vous ne faites pas ce que je vous commande. » À quoi bon accepter Jésus comme sauveur et comme maître et de ne pas faire ce qu'il dit? Il faut accepter sa souveraineté, accepter et pratiquer ses commandements. Ils ne sont pas pénibles. Voici de nombreuses années que j'ai accepté le Seigneur et je m'efforce de marcher dans l'obéissance à ses commandement. Croire ici-bas à la félicité là où Jésus-Christ règne, c'est déjà réaliser le ciel sur la terre. Croire qu'il est le Sauveur, qu'il a effacé les péchés, croire qu'il est le Christ, qu'il va revenir sur la terre, et croire qu'il est le Seigneur, et désirer de lui obéir. La Bible dit également « Toi et ta famille ». Voilà quelque chose pour ceux qui sont dans l'inquiétude d'eux au sujet de leur bien-aimé. Si vous avez la foi dans le Seigneur et que cette foi soit réelle, priez et vous verrez les vôtres arriver au pied du Sauveur tôt ou tard. La promesse est formelle. Le geôlier qui lave les pieds de ses prisonniers, qu'est-ce que cela veut dire, sinon que c'est une âme transformée totalement? Le baptême, c'est la voie de l'obéissance. Il implique l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et aussitôt le geôlier a été baptisé, lui et toute sa famille. Voyez-vous, on ne trouve aucun verset dans les Saintes Écritures qui autorise le baptême sous forme d'aspersion à des enfants. Oserait-on, chers amis, édifier une doctrine sur un peut-être ou une supposition? On ne peut le faire que en se basant sur la sainte parole immuable de notre Dieu. Les apôtres se réjouirent de ce que le geôlier avait cru en Jésus ainsi que sa famille. Résultat, eh bien, le résultat était la justification. C'était pas seulement la justification, en plus la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car un chrétien triste, c'est un triste chrétien. La foi signifie, elle signifie donc paix et salut. Chers amis, croyez-vous que Jésus viendra régner sur la terre? Je vous en prie, acceptez donc de le suivre et mettez en pratique ces saintes paroles dans votre vie. Voilà donc le chemin du salut et de la paix ainsi que du bonheur. Chers amis, notre deuxième étude, elle nous parle des lampes. La Bible dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel ». C'est écrit dans les Proverbes au chapitre 20, verset 27. Donc, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Si je me trouve dans un lieu obscur, je préfère une lampe en fer qui éclaire à une lampe en or qui n'éclaire pas. Il en est de même au point de vue spirituel. Dieu veut des lampes qui éclairent. Si elles n'éclairent pas, elles ne valent rien. Dieu ne demande pas de la science ou de la connaissance intellectuelle, mais il veut de la lumière par les lampes qu'il a allumées lui-même. Dieu nous a envoyé une grande lampe. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est déclaré être la lumière du monde. Puis, après avoir fait cette déclaration, il a dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde » Saint Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous devons donc être des lampes allumées et non des lampes éteintes. Nous sommes destinés à transmettre la lumière et le feu à d'autres lampes qui, à leur tour, produiront le feu et la lumière de Dieu autour d'elles. Il faut donc éclairer soi-même et allumer les autres, ainsi nous serons des lampes de l'Éternel. Dieu veut agir par notre moyen pour accomplir son œuvre. il lui a plu que nous, pauvres serviteurs et pauvres servantes, que nous soyons appelés à éclairer le monde. Et une lampe en fer, croyez-moi, peut bien transmettre le feu et la lumière à une lampe en or. La seule véritable lumière, c'est celle qui vient du Seigneur. Une lampe est destinée à se trouver dans un endroit plus ou moins obscur, et nous devons éclairer l'endroit où nous nous trouvons. Les disciples étaient des lampes bien allumées et bien brillantes. En particulier, nous avons Philippe, selon Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Les chrétiens dispersés étaient de petites lampes dans la nuit de leur siècle. Une seule petite lampe a pu éclairer beaucoup de Samaritains, si bien que l'on entendait dire à Jérusalem que beaucoup de lampes étaient allumées en Samarie. Ainsi, l'apôtre Pierre et Jean ont dû apporter de l'huile car il fallait alimenter ces lampes afin que leur lumière ne tarisse pas. Actes, chapitre 8, versets 14 et 18. L'huile divine, c'est le Saint-Esprit. Notre devoir de serviteur de Dieu est non seulement de bien éclairer, de bien allumer, mais surtout de tenir notre lampe remplie d'huile afin qu'elle ne s'éteigne pas. Il ne faut pas apporter de la lumière aux gens sans leur apporter en même temps une provision d'huile. Dieu a envoyé des serviteurs en vue de cela, car nous voyons que le Saint-Esprit est communiqué par ceux qui le possèdent déjà. L'apôtre Paul a fait cela pour Timothée. Vérifiez dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. La petite lampe envoyée en Samarie a été une occasion de guérison, oui, carrément de guérison, pour bien des malades. Et il nous faut aussi les dons spirituels. L'apôtre Paul déclara bien, Timothée et lui, il transmettait à Timothée, je dis bien l'apôtre Paul, a transmis à Timothée le feu. Mais il fallut quelque chose de plus que cela. Les anciens se sont réunis et un don a été communiqué tout simplement par l'imposition des mains à Timothée. Vérifiez 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. On ne peut communiquer que ce qu'on a reçu, évidemment. Nous devons avoir soif de posséder cette huile du Saint-Esprit. Il faut éclairer et allumer, et cela en même temps que brûler. Jésus-Christ a dit de Jean-Baptiste qu'il était une lampe qui brûle et qui luit. Le zèle de ta maison me dévore, est-il dit. C'est ce que disait le saint homme de Dieu. Le zèle, il faut être zélé, motivé. Notre service chrétien doit absorber toute notre énergie, toute notre vie. Il faut être prêt à être vieux avant le temps, comme Saint Paul, ou encore comme Épaphrodite, Philippiens chapitre 2, verset 27, qui ont travaillé tellement au-delà même de leur force. Et Épaphrodite, il fut malade, malade jusqu'à la mort, verset 30 de Philippiens chapitre 2. Pour le service de Christ, il est devenu malade, car il ne s'est pas préservé, il ne s'est pas, en allemand on dit, hat sich nicht geschont. Je ne trouve pas la traduction exacte pour le moment, pardonnez-moi, mais vous comprendrez sûrement. Il a éclairé, puis il a brûlé lui-même, jusqu'à ce que ses forces ont été consumées. Mes chers frères et sœurs, ne craignons pas de nous donner corps et âme. Si nous brûlons nous-mêmes, nous éclairerons les autres. Donc l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Si cette lampe n'est pas allumée par lui, ni alimentée par le Saint-Esprit, elle n'éclairera pas et sera de ce fait inutile. Que chacun d'entre nous, nous puissions être allumés et éclairés, et tout cela à la gloire du Sauveur. Dans Deux Rois, chapitre 4, verset 8, jusqu'au verset 37, notez bien, Deux Rois, chapitre 4, verset 8, jusqu'au verset 37, il est dit que l'enfant ne s'est point réveillé. Dans le récit de la résurrection du fils de la Tsunamite, et plus précisément dans la nouvelle que Gehazi rapporta à son maître, le prophète Élisée, nous voyons le grand acte de foi qui n'a pas été récompensé au premier abord. Puisque la foi n'est appréciée que dans la mesure où elle est confirmée par les faits, et nous paraît intéressant donc, il nous paraît intéressant et instructif de rechercher la raison de l'échec dans la tentative de ramener la vie de l'enfant décédé. Oui, Élisée avait donc chargé son serviteur de poser son bâton sur le visage du défunt, et cela pour le ressusciter. Nous connaissons des actes de foi aussi hardis et sublimes qui n'ont pas davantage rencontré l'assentiment du ciel. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour ce qui concerne Gehazi, le serviteur d'Élisée, eh bien nous croyons en trouver le motif dans son caractère même, tel qu'il nous apparaît dans Deux Rois au chapitre 5. Il nous y apparaît comme étant un homme qui n'est pas assez affranchi de la convoitise, surtout quand il s'agit d'argent. Dans ses rapports avec Naaman, il a montré qu'il n'était pas un homme droit de cœur. Il ne résiste pas suffisamment à la tentation de tirer un profit matériel de la situation privilégiée où il se trouvait en sa qualité de serviteur, de prophète et de bénéficiaire des grâces spirituelles. Il faut dire qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit comme son maître Élisée. C'est là que réside probablement la véritable raison pour laquelle la puissance de Dieu n'a pu agir pour lui lorsqu'il a mis le bâton d'Élisée sur la figure, sur le visage de l'enfant. Son cœur était pervers et il était privé de l'Esprit Saint. Alors, si comme Gehazi, nous nous attachons au profit et à la gloire terrestre, au lieu de rechercher uniquement la gloire de Dieu et le bien d'autrui, nous ne connaîtrons aussi que échec sur échec dans notre ministère et des reculs dans notre vie de laquelle je désire vous entretenir. Car la mère, elle n'avait rien de vie spirituelle. Voyons cela de plus près. La foi de la mère de l'enfant a certainement contribué à cet échec, car elle avait mis sa confiance uniquement en l'homme, c'est-à-dire en Élisée, et à sa puissance personnelle, plutôt que de placer sa foi, son espérance en Dieu. En tout cas, elle avait placé principalement sa foi dans le don des miracles qu'elle avait déjà vu exercer par le prophète. Toutefois, il faut reconnaître qu'elle avait une certaine foi tout de même quand elle disait à Élisée « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » 2 Rois, chapitre 4, verset 30. Et malgré cette foi plus ou moins imparfaite, un peu confuse, on peut dire mitigée, eh bien Dieu, dans sa bonté merveilleuse, l'exauça. Alléluia. Dieu répondit même au-delà de sa foi quand Élisée est venu en personne pour rendre la vie au pauvre enfant. Nous constatons, hélas, la même foi confuse et partagée chez tant de malades qui viennent vers nous pour obtenir la guérison. Ils ont un peu la foi en Dieu, mais surtout en l'homme qui prie pour eux. Et il serait donc difficile parfois de dire sur qui ils comptent le plus. Mais si imparfaite que soit souvent cette foi, nous ne pouvons la repousser, car Dieu connaît les cœurs comme il a connu celui de la Tsunamite, à laquelle il a néanmoins répondu très favorablement. Nous ne pouvons être plus sévères que Dieu. Bien sûr, l'idéal serait que tous fussent des chrétiens et des chrétiens spirituels capables de s'adresser à Dieu directement avec une foi parfaite. Mais il n'en est malheureusement pas encore ainsi, et en attendant l'état idéal que nous souhaitons tous, il faut être profondément reconnaissant à Dieu de ce qu'il veut bien désigner des hommes, des femmes comme Élisée, toute proportion gardée, pour être ses organes en vue de soulager les souffrances humaine. Ensuite, parce que cette femme, Tsunamite, avait placé sa foi surtout en Élysée, nous le savons, eh bien Dieu, dans sa grandeur, a condescendu tout de même à l'exaucer par l'intermédiaire de son serviteur. Mais cela n'implique nullement que le prophète avait cette puissance uniquement en lui-même. Si la résurrection ne s'était pas opérée par le bâton d'Élysée, comme celui-ci l'avait espéré de prime abord, c'est peut-être aussi parce que Dieu ne voulait pas qu'on attribue au bâton, objet inanimé, une puissance qu'il ne possédait pas, et de le considérer après la mort du prophète comme une baguette magique, une sorte de relique ayant la vertu de produire des miracles perpétuellement. Vous savez qu'il existe de nombreuses reliques un peu partout. Voyez-vous, l'école des prophètes à Jéricho, possédant le célèbre bâton d'Élysée, cet instrument de miracle, faire l'admiration de tous les curieux, ça aurait et avoir, on aurait eu une procession de plus ou moins fidèles qui aurait donc, qui se serait rendu à l'endroit où on garde sous cloche, sous verre, n'importe, cette fameuse relique, le bâton d'Élysée. Oui, cela se fait parfois de l'école dépositaire de la relique. On en fait un lieu de pèlerinage, un lieu de superstition. Non, 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 chers amis. Dieu n'a donc pas voulu cela, heureusement. Ces instruments sont des hommes, des femmes, qui sont remplis de son Esprit Saint et qui, en toutes circonstances, rendent gloire à Dieu, dirigeant les regards des humains vers le Seigneur seul, et qui, avec l'apôtre Pierre et Jean, savent dire « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous aurions fait marcher cet homme ?» C'est par la foi, uniquement en son saint nom, c'est-à-dire en Jésus-Christ, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Notez et lisez tranquillement Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12 et le verset 16. Ensuite, quatrièmement, nous avons la foi qui sauve. Il est dit dans Josué au chapitre 2, nous avons la foi qui sauve. Quand j'éprouve le besoin de fortifier ma foi, eh bien je médite sur le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Je vous engage donc à faire de même si votre foi commence à chanceler, et ça nous arrive à tous, vous verrez ce que des hommes et des femmes ont accompli par la foi. Dans cette longue liste, il y a le nom d'une femme remarquable au point de vue moral. Oh, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais elle fut quand même sauvée elle-même et elle est devenue le moyen de salut pour toute sa famille. Voici ce que nous pouvons lire au sujet de Rahab dans Hébreux chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Les enfants d'Israël étaient arrivés à la veille de leur entrée dans le pays de la promesse. Et Josué semble avoir eu un petit moment de doute, car il a envoyé deux hommes pour se rendre compte auparavant de l'état du pays. Ces hommes étaient entrés dans la ville de Jéricho et furent reçus. Ils ont été reçus par cette femme nommée Rahab. Josué, chapitre 2, versets 3 à 5. Ce n'est pas le mensonge qui honore cette femme, mais elle désira obtenir l'assurance d'avoir la vie sauve de la part des envoyés de Josué. Elle ne réclama rien moins que son propre salut et de celui de sa famille, des membres de sa famille. Donc cette femme a fait preuve de beaucoup de sagesse en demandant quelque chose de tangible, une parole, une promesse sur laquelle elle pourrait baser sa foi pour sa propre délivrance. Et ces deux hommes lui ont donné leur parole. Les hommes qui veulent arriver à l'assurance du salut avaient donc la certitude de la délivrance ou de la guérison. Ils ont la promesse divine contenue dans les évangiles. Oui, lorsque la parole de Dieu est prêchée selon sa volonté, Jésus-Christ guérit afin de donner au monde une preuve du salut éternel en réserve. Une personne guérie dans son corps, elle peut ainsi saisir la preuve certaine pour le salut de son âme. Faites donc comme Rahab, qui demanda une preuve de son salut et de celui de sa famille. Remettez-vous simplement à la promesse de Dieu. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vérifiez Actes chapitre 16, verset 31. Chers amis, restez en repos et restez dans le calme de la prière et de la foi. Croyez pour le salut de votre famille. Et vous, mères, vous les mamans, qui avez des enfants rebelles, priez simplement. Ils trouveront la vie amère, mais ils viendront au Seigneur, tôt ou tard. Le signe de la preuve du salut de Rahab fut un petit cordon cramoisi qu'elle devait attacher à sa fenêtre, et c'était là le signe que la maison entière serait épargnée. Mais le salut n'était plus assuré si le cordon écarlate disparaissait. Cette femme a donc joint la foi à l'obéissance. Elle a attaché le cordon à la fenêtre comme cela lui avait été ordonné, puis elle a réuni toute sa famille sous son toit. Et elle a triomphé et sa foi l'a sauvée. Ce n'est pas la honte qui l'a sauvée, ce n'était pas non plus son honnêteté ni sa moralité chancelante qui l'a sauvée. Dieu passa donc par-dessus, oui, par-dessus tous ses défauts. C'est ça. Dieu a passé par-dessus tous ses défauts et il l'a sauvé à cause de sa foi. Dieu lui permit donc d'entrer avec toute sa famille dans son peuple. Ensuite, elle n'appartient plus du tout au peuple païen, non, mais elle a pris place avec toute sa famille dans les rangs des rachetés, et cela grâce à sa foi et à son obéissance. N'oubliez jamais l'obéissance. Sa foi dans la sainte parole de Dieu qui devait s'accomplir selon ce qu'elle avait reçu par le moyen des deux espions de Josué. Elle fut donc sauvée uniquement à cause de sa foi. Aujourd'hui, le salut est aussi près de vous, tout près de vous, aussi bien qu'au temps de Rahab. Mettez donc le signe rouge à votre cœur, c'est-à-dire le sang rédempteur de Jésus-Christ, et vous serez sauvés. Quand Dieu nous donne Jésus, il nous fut donné par la même la certitude de notre propre salut. Il nous demande simplement l'obéissance à sa sainte parole et la foi en lui. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Dieu voit cette goutte de sang de Jésus-Christ sur notre cœur et il nous sauve à cause de cela. Le sang de Jésus-Christ efface donc le péché et crée ainsi une vie nouvelle en nous. Certainement, Rahab changea de vie et certainement, on peut bien le penser, de profession. Ça va de soi. À Jéricho, il y avait certes une quantité de gens plus honnêtes et plus honorables que Rahab, et aussi d'un rang social beaucoup plus élevé, supérieur à tous égards. Mais seule cette pauvre femme a été sauvée avec tous les siens, et cela à cause de sa foi dans la sainte parole de Dieu. Non seulement Dieu la sauva, la préserva, mais il lui fait maintenant l'honneur, il lui fit l'honneur d'avoir son nom qui est écrit dans le livre de la vie du ciel. Ça, c'est merveilleux. Sans le sang de Jésus-Christ, point de salut. Dans le sang de Jésus, il y a une sécurité absolument parfaite. Gloire soit rendu au Seigneur. Cinquièmement, et nous terminerons par cette cinquième petite étude, si on y arrive. Là, nous avons, dans 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7, nous avons la cognée qui est mise à la racine de l'arbre. La demeure des fils des prophètes devenue trop petite, il fallut bâtir une maison plus grande. Les prophètes demandèrent à Élisée la permission d'aller couper des arbres pour faire les poutres de cette nouvelle demeure. Élisée la leur donna et lui-même les accompagna pour bénir leur travail. Les voici maintenant à l'œuvre, la hache de l'un d'eux, pendant le travail, elle tomba à l'eau. Elle trouve son tombeau au fond du Jourdain. Notre homme est bien ennuyé, car c'était une hache empruntée. Il appela Élisée, le serviteur de l'Éternel, coupe simplement un morceau de bois et le jette dans l'eau à l'endroit où la hache était disparue. Miracle ! Le morceau de bois, qui aurait dû flotter, s'enfonce dans l'eau, touche le fer qui immédiatement quitte la boue du Jourdain et monte à la surface. Voilà une histoire intéressante, mais quelle importance a-t-elle pour nous ? La cognée spirituelle, c'est Jean-Baptiste. Lui qui avait un ministère à remplir par le Saint-Esprit. Il parut comme précurseur de Jésus. Il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait uniquement de sauterelles et de miel sauvage. Il a mis sa cognée à la racine de l'arbre juif qui était corrompu. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, Saint Matthieu 3, verset 10. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits du judaïsme étaient la corruption et l'hypocrisie. Et comment ? Jean-Baptiste disait aux pharisiens, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Matthieu 3, verset 7. Il ne coupait pas quelques feuilles seulement. Il taillait à vif beaucoup de pharisiens engagés dans la forêt du péché et de la corruption en mettant la cognée à la racine même. Or un jour, il essaya de couper le roi de la forêt qui était le roi Hérode. Et lui était, on peut dire, enfoncé totalement dans le péché de l'adultère. Sans trembler aucunement, Jean-Baptiste est venu en présence du roi en disant « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Saint Matthieu 14, verset 4. Mais cette fois, il frappa un peu trop fort, comme l'homme de notre récit, et en perdit littéralement la tête. Le fer de la cognée spirituelle descendit au tombeau. Le ministère de Jean-Baptiste, comme la cognée, était emprunté. Avant sa naissance, l'ange avait dit à Zacharie, son père, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Saint Luc chapitre 1, verset 17. C'est Élie qui avait troublé les enfants d'Israël, rappelez-vous, qui adorait Baal. C'est lui qui, par la puissance de Dieu sur la montagne du Carmel, les convainquit de leur péché. 1 Roi chapitre 18, verset 16 et 40. Plus tard, il parut en présence du roi Achab et le condamna parce qu'il avait conduit la maison d'Israël dans l'idolâtrie. 1 Roi chapitre 21, verset 17 à 26. Ces deux prophètes sont comparables l'un à l'autre dans leur vie et dans leur ministère. Avec la mort de Jean-Baptiste, la cognée spirituelle termine son ministère. Mais Élisée avait trouvé un rejeton pour faire surnager le fer. Et Dieu a fait de même pour ressusciter le ministère de Jean-Baptiste. Qui était ce rejeton ? Dans Ésaïe chapitre 11, verset 1, vous pouvez lire Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. C'est le Seigneur Jésus, c'est lui, le sceptre d'Israël, qui descendit dans les eaux de la mort pour susciter un peuple spirituel chargé de continuer le ministère de Jean-Baptiste. De par sa nature, le bois ne doit pas aller au fond de l'eau, de même que par sa nature divine, le Seigneur était le seul homme qui n'aurait pas dû mourir parce qu'il a été le seul homme qui fut sans péché, sans aucun péché. Mais il fut fait péché, il a été fait péché pour nous, pour toi comme pour moi, et il est descendu dans les eaux amères de la mort pour nous délivrer de la boue du péché et de ses conséquences. Comme l'arche de Noé et comme le fer sur Nagère, nous devons être triomphants sur le monde et le morceau de bois donne la vie au fer de la cognée. Ainsi le Seigneur Jésus nous donne la vie abondante. Avec le baptême dans le Saint-Esprit, il nous donne un ministère semblable à celui de Jean-Baptiste. Pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui encore, le monde et la chrétienté reçoivent des coups de la cognée spirituelle, le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Saint Jean chapitre 16, verset 8. La forêt du péché est grande aujourd'hui. La cognée doit donc être à l'œuvre pour vaincre. Le fer de la cognée est inutile sans le manche de bois. Le bois est le type du corps et de la chair. Dieu cherche donc des hommes et des femmes qui offrent leur corps pour son service, afin qu'il puisse les remplir de son Esprit Saint. Le fer qui est le Saint-Esprit et le manche qui est l'homme et la femme peuvent travailler ensemble pour sauver et convertir les perdus. Comme Jean-Baptiste, précurseur de Jésus-Christ, il préparait les sentiers du Seigneur et nous devons, chers amis, préparer un peuple pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dois malheureusement arrêter ici, car il n'y a plus la place pour la prière que j'aurais voulu faire avec vous, mais si vous réécoutez soigneusement cette étude ou une partie de ces cinq petites études, vous pourrez prier tout simplement comme un enfant avec son cœur ouvert devant son père ou devant sa maman. Et vous utilisez simplement des mots tout simples. Pourquoi compliquer les choses? Dites par exemple, j'ai la joie d'être avec toi, Seigneur. Mon cœur veut t'aimer. Ma bouche veut exprimer ce qu'elle ressent pour toi. Mon âme le désire. Mon corps y aspire. Tout mon être y tende et tendu vers toi. Et cela jusqu'à ce que j'entre dans la joie de mon Seigneur, qui est le Dieu Trinité. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir, mes chers amis, à demain matin pour la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.